Bienvenue dans le débat. Imaginez un instant la scène. La nuit tombe sur l'Indonésie et des pirogues à moteur fendent l'obscurité du détroit de Makassar.
Ou même en Papouasie, des porteurs qui s'enfoncent à pied dans les montagnes avec des boîtes en carton scellées sur le dos.
Exactement. Et sur les pentes volcaniques de Java, ce sont littéralement des chevaux qui luttent contre la boue. Et tout ça, bah, uniquement pour acheminer des bulletins de vote.
C'est le côté vertigineux de ce scrutin. 192 millions d'électeurs appelés aux urnes le 17 avril 2019, et tout ça en une seule et unique journée.
C'est, je veux dire, le défi logistique le plus complexe au monde, et c'est la question centrale qui nous occupe aujourd'hui, l'analyse de ce scrutin qui a reconduit Joko Widodo. Pour moi, c'est très clair. Atteindre près de 82% de participation malgré ces obstacles, c'est un exploit magistral. C'est une preuve de pragmatisme qui a vraiment sauvé la cohésion d'un archipel hyper fragmenté.
Eh bien, je suis fascinée par cette lecture, mais je regarde les choses sous un angle bien plus sombre. Derrière cet apparent triomphe, il y a un bilan humain absolument accablant et un cynisme politique glaçant. On parle d'un système qui a broyé les citoyens, même qui essayaient de le faire fonctionner.
Je comprends, mais attendez. Avant d'arriver au bilan humain, mettons-nous à la place de ceux qui analysent ce choix institutionnel. Pourquoi l'Indonésie a-t-elle décidé de fusionner cinq scrutins, allant du président aux parlements locaux, en une seule journée?
L'idée sur le papier, c'était de rationaliser.
Oui, pour des raisons économiques.
C'est ça, faire des économies financières massives et puis aligner les mandats pour éviter une élection permanente. Mais concrètement, sur le terrain, ça s'est transformé en cauchemar absolu. Les électeurs devaient naviguer à travers des bulletins gigantesques et surtout, le dépouillement devait se faire manuellement.
Ah ouais, le comptage des cinq urnes.
Exactement. Vous imaginez ces bénévoles locaux, souvent assez âgés, compter cinq urnes différentes d'affilée.
C'est vrai que la charge de travail a été, disons, très sous-estimée.
C'est un euphémisme. Ils ont travaillé 30, 40, parfois 48 heures de suite dans des pièces mal ventilées. Leurs corps ont tout simplement lâché. Près de 900 agents électoraux sont morts d'épuisement ou d'arrêt cardiaque. Ce n'est pas un triomphe institutionnel quand la logistique tue ceux qui la portent.
C'est une tragédie, c'est indéniable. Mais il faut comprendre le climat de tension extrême dans lequel cette élection s'est tenue. La pression n'était pas que logistique, elle était idéologique.
Oui, bien sûr.
Joko Widodo venait de voir son allié, le gouverneur de Jakarta, jeté en prison pour blasphème. L'opposition militarisait vraiment l'identité religieuse. Pour Widodo, choisir le dignitaire conservateur Maruf Amin comme colistier n'était pas qu'un simple calcul. C'était un bouclier pour éviter une guerre de religion.
Mais un bouclier qui a engendré une violence inouïe. Le débat d'idées a complètement disparu au profit d'une guerre numérique féroce. D'un côté, les partisans de Widodo, moqués comme de naïfs. Tétards,
Les fameux tétards.
et de l'autre, ceux de l'ex-général Prabowo, surnommés les chauves-souris, perçus comme agissant dans l'ombre. Et Prabowo, bien qu'issu de l'élite militaire laïque, s'est allié aux islamistes les plus durs, juste pour des raisons arithmétiques.
Et c'est justement là que la force des institutions indonésiennes entre en jeu. La rue s'est embrasée en mai, on a eu 8 morts sur les barricades à Jakarta, Prabowo a crié à la fraude massive, mais ben, la Cour constitutionnelle a tenu bon.
Ils ont demandé des preuves matérielles.
Absolument. Face à un écart de 16 millions de voix, les juges exigent des preuves que Prabowo n'a jamais pu fournir. Et regardez le dénouement. Prabowo finit par accepter le poste de ministre de la Défense de Widodo. C'est la preuve d'une pacification réussie.
Mais c'est précisément ce dénouement qui est lunaire. Pour un observateur extérieur, c'est ahurissant. Vous chauffez la rue à blanc, vous dénoncez des fraudes, vos partisans meurent sur des barricades, et quelques mois plus tard, vous prenez un portefeuille ministériel tranquillement.
C'est une méthode d'intégration.
Intégrer le pardon pour le faire taire, c'est le signe d'une élite qui s'arrange entre elles. Ça rend la mort de ses 900 assesseurs totalement absurde et ça vide le débat démocratique de sa substance.
Je ne suis pas d'accord avec cette lecture. Le système politique indonésien repose sur le Gotong Royong. C'est cette idée de grand rassemblement collectif. Moi, je vois ça comme le système de suspension d'un véhicule tout-terrain. Absorber l'adversaire plutôt que de l'isoler, ce n'est pas un bug cynique.
Vous comparez ça à une suspension chaussée
Oui, c'est la fonctionnalité même qui permet d'encaisser les chocs et d'empêcher le pays de se disloquer dans une guerre civile.
Eh bien, pour moi, une suspension qui nécessite d'écraser ceux qui sont sous les roues pour avancer est profondément défectueuse. La mobilisation civique des Indonésiens était magnifique, mais cette stabilité apparente masque un sacrifice humain inacceptable. Ce sont des promesses électorales trahies.
C'est une vision idéaliste contre une vision pragmatique, on le voit bien. Ce qui est sûr, c'est que cette journée électorale restera comme l'une des plus intenses de l'histoire moderne.
Tout à fait. Et l'évaluation de ce que coûte réellement cette démocratie mérite qu'on s'y attarde.
Exactement. Derrière chaque urne portée à travers la jungle, il y a le poids de la stabilité ou bien le fardeau d'un sacrifice. C'est à chacun d'en tirer ses conclusions. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour continuer à explorer ces questions ensemble.